From the conference center at...
Ici, le centre de conférence Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communication. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
Thomas S. Monson,
président de l'Église, dirigera cette session.
Brothers and sisters, we welcome
Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à la quatrième session de la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous saluons tous ceux d'entre vous qui suivent cette réunion à la radio, à la télévision, par Internet ou satellite. Nous remercions les propriétaires et les exploitants de nombreux réseaux de diffusion qui transmettent cette conférence. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du tabernacle sous la direction de Mac Wilberg avec Richard Elliott et Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Sing praise to him » et interprétera maintenant « Oh, j'ai besoin de toi ». Glenn L. Pace, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture. Le chœur chantera ensuite Beautiful Zion built above.
I need thee every Our Father in heaven.
Notre Père qui est aux cieux, nous reconnaissons tous que nous avons besoin de toi. Nous sommes reconnaissants de ce cœur magnifique qui nous a interprété cette musique qui nous a émus et nous a donné ton esprit. Nous sommes reconnaissants de la connaissance que nous avons de toi, Père, et d'avoir permis que ton Fils soit notre Rédempteur. Nous sommes reconnaissants d'avoir appelé dans ces derniers jours des prophètes, voyants, révélateurs pour nous guider. Nous savons que ceux qui vont nous parler aujourd'hui ont cherché avec effort de nous présenter ce que nous avons besoin d'entendre. Nous savons qu'ils t'ont imploré pour savoir quoi nous dire. Et pour nous qui sommes venus avec une prière dans le cœur pour entendre les choses que nous avons besoin d'entendre. Et dans certains cas, cela nous sera un baume de Gilead pour notre âme. Fait que nous puissions être bénis en ceux qui parlent et ceux qui vont écouter, afin que ces messages ne soient pas seulement à résonner dans nos oreilles, mais surtout profondément dans notre cœur, pour que nous soyons édifiés. Nous te prions afin que nous puissions recevoir ces messages individuellement et personnellement pour les choses que nous sommes venus à rechercher. Nous prions aussi pour que nous ressentions ton amour. Et pour ces bénédictions, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.
You are
Simply beautiful.
Tout simplement magnifique. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre Henry Byring, premier conseiller de la première présidence. Elton Perry, du Collège des Douze Apôtres, prendra ensuite la parole. Après quoi, nous aurons le plaisir d'entendre H. David Burton, évêque président de l'Église. Frère Byring.
I feel blessed to have the
Je me sens béni de pouvoir vous parler ce jour de sabbat. Quelles que soient les différences de nos situations, nos expériences, nous partageons le désir de devenir meilleurs. Il y en a peut-être quelques-uns qui pensent à tort être suffisamment bons et quelques-uns qui ont renoncé à essayer d'être meilleurs. Mais pour tous, le message de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ est que nous pouvons et devons nous attendre à nous améliorer tant que nous vivons. Ce qui est attendu de nous est en partie indiqué dans une révélation donnée par Dieu à Joseph Smith, le prophète. Elle décrit le jour où nous rencontrerons le Sauveur, comme nous le ferons tous. Elle nous dit quoi faire pour nous préparer et à quoi nous attendre. Elle se trouve dans le livre de Moroni. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Dieu, le Père, de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être rempli de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ. Afin de devenir les fils de Dieu, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, afin que nous ayons cette espérance, afin que nous soyons purifiés comme il est pur. Amen. Cela doit vous aider à comprendre pourquoi tout saint des derniers jours croyant est optimiste en ce qui concerne ce qui va arriver, aussi difficile que soit le présent. Nous croyons que grâce à l'Évangile vivant de Jésus-Christ, nous pouvons devenir comme le Sauveur, qui est parfait. La pensée des qualités de Jésus-Christ doit réprimer en nous l'orgueil et la satisfaction de soi de celui qui pense qu'il n'a pas besoin de s'améliorer. Et même la personne la plus humble peut trouver de l'espoir dans l'invitation à devenir comme le Sauveur. Je trouve que la manière de cette transformation merveilleuse va se produire est bien exprimée dans un chant écrit pour les enfants. Je me rappelle avoir observé dans une salle pleine les visages des enfants le chantant un dimanche. Ils étaient tous penchés en avant, presque sur le bord de leur chaise. Je pouvais voir de la lumière dans leurs yeux et de la détermination sur le visage, tandis qu'ils chantaient avec enthousiasme. Vous avez peut-être aussi entendu ce chant. J'espère que nous en souviendrons éternellement. J'espère que je pourrai retransmettre les sentiments de ces enfants. Jésus-Christ est mon modèle. Je marcherai sur ses pas, montrant mon amour ainsi qu'il le fit à chaque instant de ma vie. Parfois, je suis tenté de choisir le mal, mais j'écoute en moi la petite voix qui me dit « Aime ton prochain. Jésus t'aime aussi. » En tout ce que tu fais, toujours sois gentil, sois bon et aimant en pensée, en action. Voilà de Jésus les leçons. J'avais le sentiment qu'ils ne faisaient pas que chanter, qu'ils déclaraient leur détermination. Jésus-Christ était leur exemple. Ils avaient l'objectif d'être comme lui. Leurs visages fervents et leurs yeux brillants m'ont convaincu qu'ils n'avaient aucun doute. Ils s'attendaient à réussir. Ils croyaient que l'instruction du Sauveur d'être parfait n'était pas un espoir, mais un commandement. Ils étaient sûrs qu'il avait préparé la voie. Cette détermination, cette confiance peuvent et doivent se trouver dans le cœur de tous les saints des derniers jours. Le Sauveur a préparé la voie par son expiation et son exemple. Et même les enfants qui chantaient ce chant savait comment. L'amour est le principe moteur par lequel le Seigneur nous guide sur le chemin qui permet de devenir comme lui, notre exemple parfait. Notre vie heure après heure, doit être rempli de l'amour de Dieu et de l'amour d'autrui. Ce n'est pas une surprise, puisque le Seigneur a déclaré que c'est le premier et le plus grand commandement. C'est l'amour de Dieu qui nous conduira à respecter ses commandements. Et l'amour d'autrui est au cœur de notre capacité de lui obéir. Tout comme Jésus, durant son ministère terrestre, a utilisé l'exemple de l'enfant pour illustrer l'amour pur que nous pouvons et devons avoir pour être comme lui, de même, il nous a donné l'exemple de la famille comme cadre idéal pour apprendre à aimer comme il aime. C'est parce que c'est dans les relations familiales que nous avons les plus grandes joies et les plus grands chagrins. Nous éprouvons de la joie en faisant passer le bien-être des autres avant le nôtre. C'est ça l'amour. Et nous éprouvons du chagrin principalement du fait de l'égoïsme qui est l'absence d'amour. L'idéal que Dieu nous présente est de fonder une famille, ce qui nous conduira vraisemblablement au bonheur et nous épargnera le chagrin. L'homme et la femme doivent contracter des alliances sacrées qui mettront le bien-être et le bonheur de leur conjoint au centre de leur vie. Les enfants doivent naître dans une famille où les parents accordent autant d'importance aux besoins des enfants qu'aux leurs. Et les enfants doivent aimer leurs parents et s'aimer mutuellement. C'est cela l'idéal de la famille aimante. Dans beaucoup de nos foyers, on peut lire « Notre famille peut être ensemble éternellement. Il y a près de chez moi la tombe d'une mère et grand-mère. Son mari et elle ont été scellés dans le temple de Dieu, l'un à l'autre, et à leur postérité pour le temps et pour l'éternité. Sur la tombe, on peut lire, s'il vous plaît, pas de chaise vide. Elle avait demandé qu'on mette cette inscription parce qu'elle savait que toute la famille pouvait être ensemble en fonction des choix de chaque membre de la famille. Il y a les mots « s'il vous plaît » parce que ni Dieu ni elle ne peuvent obliger qui que ce soit à choisir le bonheur. Il y a Satan qui veut le malheur, pas le bonheur, dans les familles, dans cette vie et dans la suivante. Mon espoir aujourd'hui est de proposer quelques choix qui peuvent sembler difficiles, mais qui vous assureront que vous êtes qualifiés pour qu'il n'y ait pas de chaise vide dans votre famille dans le monde à venir. Premièrement, je donne un conseil aux maris et aux femmes. Priez pour avoir l'amour qui permet de voir le bien chez votre conjoint. Priez pour avoir l'amour qui fait que les faiblesses et les erreurs semblent petites. Priez pour avoir l'amour de vous faire une joie de la joie de votre conjoint. Priez pour avoir l'amour de vouloir alléger le fardeau et adoucir les chagrins de votre conjoint. J'ai vu cela dans le mariage de mes parents. Dans la phase finale de la maladie de ma mère, plus elle se sentait mal, plus l'aider à se sentir bien est devenu le but principal de la vie de mon père. Il a demandé à ce qu'un lit soit ajouté dans la chambre d'hôpital. Il voulait être présent pour être sûr qu'elle ait tout ce qu'elle voulait. Il faisait plusieurs kilomètres à pied chaque matin pour aller au travail, et autant le soir, pour revenir à son chevet dans cette période difficile pour elle. Je crois qu'il a reçu le don de Dieu de pouvoir grandir son amour quand cela était si important pour elle. Je pense qu'il faisait ce que Jésus aurait fait par amour. Je vais maintenant donner un conseil aux parents d'enfants égarés. Le Sauveur est l'exemple parfait de la persévérance dans l'amour. Rappelez-vous ses paroles de consolation aux gens parmi les Néphites qui avaient auparavant rejeté son invitation à venir à lui. Il parlait aux survivants de la destruction qui s'est produite après sa crucifixion. « Ô maison d'Israël que j'ai épargnée, combien de fois vous rassemblerai-je? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, si vous vous repentez et revenez à moi d'un cœur pleinement résolu. » L'histoire du fils prodigue nous donne de l'espoir à tous. Il s'est souvenu de son foyer, comme le feront vos enfants. Ils sentiront votre amour les ramener à vous. Orson F. Whitney, lors d'une conférence générale de 1929, a fait une promesse remarquable que je sais être vraie. Aux parents fidèles qui honorent le scellement du temple avec leurs enfants. Je cite, « Bien que des brebis puissent s'égarer, l'œil du berger est sur elles, et tôt ou tard, elles sentiront les bras de la divine providence les ramener dans le troupeau. » Il a ajouté, je cite, « Priez pour vos enfants négligents et désobéissants. Accrochez-vous à eux avec foi, espérez, ayez confiance, jusqu'à ce que vous voyez le salut de Dieu. » Vous pouvez prier pour vos enfants, les aimer et aller vers eux confiant que Jésus va vers eux avec vous. En continuant d'essayer, vous faites ce que fait Jésus. Voici maintenant mon conseil aux enfants. Le Seigneur vous a donné un commandement assorti d'une promesse. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. C'est le seul des 10 commandements qui soit accompagné d'une promesse. Vos parents ne sont peut-être plus en vie. Dans certains cas, vous pensez peut-être que vos parents ne sont pas dignes d'être honorés et respectés par leurs enfants. Vous les avez peut-être même pas connus. Mais vous leur devez la vie. Et dans tous les cas, même si votre vie n'est pas prolongée, sa qualité sera améliorée simplement si vous vous souvenez de vos parents en les honorant. Maintenant, aux gens qui ont adopté une autre famille comme si c'était la leur, j'ai des amis qui se souviennent de l'anniversaire de mes enfants mieux que moi. Ma femme et moi avons des amis qui manquent rarement de venir nous voir ou de célébrer une fête avec nous. Je suis souvent touché quand des gens commencent une conversation en disant « Comment va votre famille ?» puis attendent la réponse de visage empreint d'amour. Ils semblent attentifs quand je décris la vie de chacun de mes enfants. Leur amour m'aide à ressentir plus profondément l'amour du Sauveur pour nos enfants. Dans leurs questions, je sens qu'ils éprouvent ce que Jésus éprouve et qu'ils demandent ce qu'ils demanderaient. Il peut nous sembler difficile à tous de voir que notre capacité d'aimer augmente et que nous devenons davantage comme le Sauveur, notre exemple parfait. Je veux vous encourager. Vous avez eu des preuves que vous devenez davantage semblable à Jésus. Cela va vous aider à vous rappeler que vous êtes parfois senti comme un petit enfant, même au milieu de soucis et d'épreuves. Pensez à ces enfants chantant ce chant. Pensez aux fois, peut-être récemment, où vous êtes senti comme ces petits-enfants qui chantaient « Jésus est mon modèle, je marcherai sur ses pas ». Vous vous rappelez que Jésus a demandé à ses disciples de lui amener les enfants et a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent ». Il vous est arrivé de ressentir la paix d'un petit-enfant pur quand vous avez essayé d'être comme Jésus. Cela s'est peut-être produit quand vous vous êtes fait baptiser. Il n'avait pas besoin de baptême parce qu'il était pur. Mais lorsque vous êtes fait baptiser, vous avez eu le sentiment d'être devenu pur, comme un petit enfant. Quand il s'est fait baptiser, les cieux sont ouverts et il a entendu la voix de son Père Céleste. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous n'avez pas entendu de voix, mais vous avez ressenti l'approbation de notre Père Céleste, ayant fait comme Jésus. Vous l'avez ressenti dans votre famille, quand vous avez demandé pardon à votre conjoint, ou pardonner un enfant qui avait commis une faute ou avait désobéi. Ces moments se produiront plus souvent si vous essayez de faire ce que vous savez que Jésus ferait. Grâce à son expiation pour vous et votre obéissance enfantine, vous ressentirez l'amour du Sauveur pour vous et votre amour pour lui. C'est l'un des dons qui sont promis à ses disciples fidèles. Et ce don peut être accordé non seulement à vous seul, mais aussi aux membres aimants de votre famille. La promesse en a été faite dans 3e Néphi. Tous tes enfants seront disciples du Seigneur, et grande sera la prospérité de tes enfants. J'espère que vous allez aujourd'hui chercher des occasions de faire comme il a fait et d'aimer comme il aime. Je peux vous promettre que vous ressentirez souvent et que vous garderez la paix que vous avez ressentie étant enfant. La promesse qu'il a faite à ses disciples est vraie. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Aucun de nous n'est encore parfait, mais nous pouvons avoir de fréquentes assurances que nous sommes sur le chemin. Il nous guide et il nous fait signe de le suivre. Je témoigne que le chemin passe par la foi en Jésus-Christ, par le baptême, par le don du Saint-Esprit et par la persévérance dans l'amour à respecter ses commandements. Je témoigne que le Père vit et qu'il nous aime. Il aime son Fils aimé, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre exemple parfait. Joseph Smith était le prophète du rétablissement. Il a vu le Père et le Fils. Je sais que c'est vrai. Il y a dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours le pouvoir de la prêtrise pour offrir les ordonnances qui nous permettent de devenir meilleurs et davantage semblables au Sauveur et à notre Père Céleste. Je vous bénis pour que vous ressentiez l'assurance et l'approbation que vous avez ressentie étant enfant. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Vous étiez donné à Sœur Perry et à moi d'assister cet été à Manti au Mormon Miracle Pageant. Un soir, avant le commencement de la reconstitution, nous avons parlé aux acteurs à cause de leur grand nombre. Nous avons dû le faire en deux sessions. La reconstitution historique avait une distribution de plus de 800 personnes, dont 570 avaient moins de 18 ans. Cette année, elle comptait 100 participants supplémentaires, ce qui a obligé les sœurs responsables des costumes à en créer de nouveaux, ce qu'elles ont fait. C'était inspirant de voir à quel point elles étaient organisées pour régler tous les détails. La reconstitution historique se déroule sur un beau flanc de colline juste dessous du temple de Manti. 15 000 personnes étaient présentes le soir où nous y avons assisté. C'était émouvant de voir cette armée de jeunes gens et de jeunes filles acquérir la vision de l'histoire de rétablissement de l'Évangile, tandis qu'ils jouaient leur rôle avec un tel enthousiasme et un tel esprit. Une chose que nous aimons faire, Sœur Perry et moi, quand nous visitons Manti, c'est faire une session au temple. Il y a un esprit spécial dans ces temples, le plus ancien, qui ont été construits au prix de grands sacrifices par les pionniers. Participer à une session au temple de Manti a été une expérience émouvante pour moi. Cela m'a rappelé le souvenir que j'avais du temple de Logan, avant qu'il ne soit transformé et modernisé. Pendant que la session avançait, il me semblait entendre dans chaque salle ces pionniers dire « Regardez ce que nous avons construit de nos propres mains. Nous l'avons fait sans l'aide de matériel motorisé, sans entrepreneur et sans sous-traitant. Pas de grue complexe pour soulever les lourdes pierres. Nous avons effectué ce travail avec nos propres forces. Quel splendide héritage les pionniers du comté de San Pete nous ont laissé. Ronald Reagan, ancien président des États-Unis, a dit un jour, « Je ne veux pas retourner dans le passé. Ce que je veux, c'est retrouver la façon que l'on avait dans le passé d'affronter l'avenir. » Sa réflexion perspicace m'interpelle toujours. Il a la sagesse à repenser aux leçons du passé pour nous préparer à relever les défis de l'avenir. Quel merveilleux héritage de foi, de courage et d'ingéniosité ces nobles pionniers mormons nous ont légués pour que nous le fassions fructifier. Plus j'avance en âge, plus mon admiration pour eux s'approfondit. Quand ils ont brassé l'Évangile, cela a entraîné un changement complet de vie pour eux. Ils ont tout laissé derrière eux, leur maison, leurs entreprises, leurs fermes, et même des proches bien-aimés, et sont entrés dans le désert. Cela a dû être un vrai choc, comme Brigham Young a annoncé, c'est là. Ils avaient devant eux un vaste désert, dénué des collines verdoyantes, des arbres et des belles prairies que la plupart de ces pionniers avaient connues. Avec une foi ferme en Dieu, en leur dirigeant, ils se sont mis au travail pour fonder de belles villes et de beaux villages au pied des montagnes. Beaucoup de pionniers fatigués venaient tout juste de commencer à jouir d'un peu du confort modeste de la vie quand Brigham Young les a appelés à partir de nouveau de chez eux et à aller vers l'est, l'ouest, le nord et le sud pour coloniser le grand bassin. C'est ainsi que les localités du comté San Pete Fairview, Ephraim, Manti, Moroni et Mount Pleasant ont été fondés. À mon retour de ma visite au comté de San Pete, j'ai éprouvé le désir d'en apprendre plus sur ces pionniers. J'ai décidé de passer quelques heures dans la nouvelle bibliothèque d'histoire de l'Église et de lire un peu de leur histoire. C'est en 1849, juste 2 ans après leur arrivée dans la baie du lac Salé, que Brigham Young, le grand colonisateur de l'Ouest, a appelé un groupe de saints à aller dans le Sud et a recommencé à construire leur maison et à fonder leur localité dans un autre désert. Peu de temps après leur installation à San Pete, Heber C. Kimball rendit visite à la communauté de Manti et promit que sur la colline dominant la vallée, un temple serait construit à l'aide de pierres des montagnes situées à l'est. Quelques années passèrent après la visite du président Kimball et les habitants commencèrent à s'inquiéter de ce que rien n'était fait pour construire un temple pour leur usage. L'un d'eux déclara « Nous devons avoir un temple dans notre ville. Cela fait assez longtemps que nous attendons cette bénédiction. » Un autre dit « Si nous voulons avoir un temple, nous ferions bien de nous mettre au travail et le construire. » Et c'est exactement ce qu'ils firent. La pierre angulaire fut posée le lundi 14 avril 1979, quelques 30 ans après l'arrivée dans la vallée de San Pete. Il y a beaucoup d'histoires que l'on pourra raconter sur la diligence des ouvriers qui donnèrent le meilleur d'eux-mêmes pour la construction du beau temple. Le président Hinckley a dit, il y a plusieurs années, lors de la reconsécration du temple de Manti, « Je suis allé dans les grands bâtiments du monde, mais il n'y en a aucun dans lequel j'éprouve ce que je ressens quand j'entre dans ces maisons de Dieu construites par les pionniers. » La famille Hinckley a un lien très spécial avec le temple de Manti. Le grand-père de Marjorie Hinckley perdit la vie à la suite d'une blessure reçue pendant sa construction. Pour mieux comprendre comment le passé peut enseigner une meilleure manière d'affronter l'avenir, je vais raconter une histoire concernant la construction du temple de Manti. Je vous dirai ensuite ce qu'elle m'a enseigné sur les vrais principes. Des charpentiers de Norvège, qui étaient arrivés à Manti et s'étaient installés, se virent confier la tâche de construire le toit du temple. Ils n'avaient jamais fait de charpente pour un toit. Mais c'étaient des constructeurs de navires expérimentés. Ils ne savaient pas comment concevoir un toit. Alors, l'idée leur vint, et si nous construisions tout simplement un bateau? Ensuite, parce qu'un bateau bien construit est très solide et sûr, si nous retournons les plans, nous aurons un toit bien fait. Ils se mirent à faire les plans, comme pour construire un bateau. Et quand ils furent terminés, ils le tournèrent, et ils devinrent le toit du temple de Manti. Dans ce cas-ci, ils utilisèrent les leçons tirées de l'expérience du passé, les principes de la construction de navires, pour relever un défi nouveau. Ils raisonnèrent très justement que les mêmes principes qu'ils avaient appliqués pour construire un navire capable de tenir la mer s'appliqueraient également à la construction d'un toit solide. Par exemple, les deux structures devaient être étanches. L'intégrité de base de la structure ne serait pas affectée par son orientation, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. La chose la plus importante était d'avoir une connaissance pratique des principes de base requis pour ériger une structure construite pour durer. L'évangile de Jésus-Christ comporte des principes et des vérités éternelles qui dureront bien plus longtemps que les principes servant à la construction de bateaux et de toits. Vous et moi, membres de la véritable Église du Seigneur, nous avons un accès spécial à ces principes et sa vérité éternelle. Particulièrement quand nous écoutons l'Esprit nous guider personnellement et guider notre famille et que nous entendons la voix du prophète quand il déclare la parole de Dieu à tous les membres de l'Église. Nous savons, vous et moi, à quel point ces principes et ces vérités éternelles sont importants dans notre vie. Je ne suis pas sûr que les pionniers auraient pu affronter, sans eux, leur avenir périlleux et incertain, ni que le pourrions, nous non plus. Ils sont la seule manière véritable, éternelle, d'affronter l'avenir, particulièrement dans les temps de plus en plus périlleux et incertains dans lesquels nous vivons maintenant. Ces constructeurs navals norvégiens étaient venus avec les qualifications fondamentales de leur métier qui pouvaient être affectées à la construction de temples. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a causé le changement radical de leurs priorités? Il n'y a qu'une seule réponse qui explique leur disposition à tout sacrifier pour devenir des constructeurs du royaume de Dieu. On leur avait enseigné, et ils avaient accepté, les principes et les vérités éternelles de l'Évangile de Jésus-Christ. Ils comprenaient que leur mission n'était pas seulement d'aider à construire des édifices, mais aussi de contribuer à l'édification d'autres personnes en communiquant leur connaissance de l'Évangile. Comme nous le lisons à la section 50 des Doctrines et Alliances, celui qui prêche et celui qui reçoit se comprennent, et tous deux sont édifiés et se réjouissent ensemble. Quand nous avons reçu la grande bénédiction de la connaissance de l'Évangile de Jésus-Christ et avons pris sur nous le nom du Christ, en entrant dans les eaux du baptême, nous avons également accepté l'obligation de faire connaître l'Évangile aux autres. Pour que nous puissions nous acquitter plus complètement de notre responsabilité de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ, l'Église a récemment retourné le programme missionnaire. Il y a quelques années, nous avons éliminé les missions de pieux et transféré l'essentiel de nos efforts à l'organisation de la mission de paroisse. Chaque conseil de paroisse de l'Église ayant élaboré un plan de mission de paroisse, les choses avancent de plus en plus vite. Une grande partie du succès est due à la collaboration des missionnaires à plein temps avec les conseils de paroisse, les dirigeants de mission de paroisse et les membres de la paroisse. Nous avons découvert que l'œuvre missionnaire basée sur la paroisse augmente la participation des membres à la recherche et à l'enseignement des amis de l'Église. Ceux-ci sont souvent invités à recevoir les leçons missionnaires chez les membres. Les membres des paroisses ont plus envie de partager leurs précieuses connaissances de l'Évangile de Jésus-Christ quand ils ressentent directement les belles bénédictions du service missionnaire et ils reçoivent des rappels plus réguliers de leurs dirigeants de paroisse. Les membres regardent mieux autour d'eux quand ils réfléchissent et prient pour pouvoir parler de l'Évangile aux amis, aux voisins et aux membres de la famille appartenant à d'autres religions. Le président Hinckley a enseigné, tant d'entre nous considèrent que l'œuvre missionnaire se limite au porte-à-porte. Tous ceux qui connaissent bien cette œuvre savent qu'il y a un meilleur moyen. C'est par les membres de l'Église. Chaque fois qu'un membre présente un ami, il y a un système de soutien immédiat. Le membre rend témoignage de la véracité de cette œuvre. Il souhaite le bonheur de son ami. Il s'enthousiasme pour les progrès que fait son ami dans l'apprentissage de l'Évangile. Les missionnaires à plein temps continueront à s'occuper de la majeure partie de l'instruction proprement dite des amis de l'Église, mais les membres auront de nombreuses occasions de répondre à des questions et de rendre leur témoignage. Nous écoutons plus complètement la voix du prophète quand nous nous préparons à enseigner les principes de base de l'Évangile. La préparation fait disparaître la crainte et elle simplifie et fortifie aussi ce que les membres font pour soutenir les missionnaires à plein temps. Il y a trois leçons très fondamentales que les missionnaires à plein temps donnent. Le rétablissement, le plan de salut et l'Évangile de Jésus-Christ. À quel point êtes-vous préparé à rendre témoignage de véracité de ces leçons très fondamentales? Utilisez le manuel missionnaire, inspirez, prêchez mon Évangile, ou étudiez et vous préparez à jouer ce rôle de soutien des missionnaires. Tandis qu'il donne ses leçons de base de l'Évangile. Puissions-nous tous apprendre les deux leçons importantes données par les constructeurs navals de Norvège qui ont construit le toit du temple de Mandy. Il y a d'abord la leçon qu'il faut utiliser les principes et les vérités du passé pour nous aider à affronter l'avenir. En second lieu, nous tirons la leçon de leur désir de faire connaître aux autres ce qu'ils savaient pour aider à édifier le royaume de Dieu. Cette deuxième leçon, si nous l'apprenons bien, en aidera beaucoup d'autres, nos frères et sœurs, fils et filles de Dieu comme nous, à affronter un avenir certain, avec les mêmes assurances éternelles que nous. L'Évangile de Jésus-Christ est vrai. Il a été rétabli pour être une bénédiction dans notre vie, en ces derniers jours. Il contient toutes les vérités, tous les principes, toutes les ordonnances appartenant au grand plan du bonheur de notre Père Céleste, qui est un plan qui doit nous permettre de retourner vivre éternellement avec lui. L'évangile de Jésus-Christ et sa manière divine de nous permettre d'affronter notre avenir glorieux. Je vous en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, Elder Pace, for that beautiful invocation.
Merci, Elder Pace, pour cette belle prière. J'apprécie cet orateur particulièrement. Que la vertu orne sans cesse tes pensées, alors ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu. À l'approche de mon 12e anniversaire, il y avait quelques conditions à remplir avant d'avoir mon certificat de la primaire. L'une d'elles était de réciter les 13 articles deux fois dans l'ordre. Les 12 premiers étaient faciles, mais le 13e était difficile. La difficulté était de se souvenir des vertus dans l'ordre. Grâce à une instructrice de la primaire, qui était patiente et tenace, j'ai finalement réussi à le mémoriser. Des années plus tard, nous nous sommes installés dans notre première maison. Nous avons été surpris d'apprendre que mon instructrice de la primaire serait notre voisine. Au cours des 40 ans où nous avons habité dans le même quartier, elle a gardé notre petit secret sur mes difficultés d'apprentissage. Nous croyons que nous devons être honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants et vertueux, et que nous devons faire du bien à tous les hommes. En fait, nous pouvons dire que nous suivons l'exhortation de Paul. Nous croyons tout, nous espérons tout, nous avons supporté beaucoup, et nous espérons être capables de supporter tout. Nous recherchons tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Aujourd'hui, je vais parler des traits personnels qu'on appelle vertus. Les traits de la vertu constituent la base d'une vie chrétienne ainsi que la manifestation extérieure de l'homme intérieur. L'orthographe de beaucoup de ces vertus se termine en IT. I-T-E. Intégrité, humilité, charité, spiritualité, responsabilité, civilité, fidélité, et la liste continue. Employant une licence littéraire, je vais qualifier ces vertus finissant en IT, les vertus IT. IT est un suffixe qui signifie qualité, état ou caractéristique. Il suffit de regarder autour de nous pour voir ce qui se passe dans nos collectivités, pour constater le déclin rapide des vertus personnelles. Pensez au comportement des conducteurs sur les autoroutes bondées. La violence routière est bien trop répandue. La civilité est quasiment absente des discours politiques. Alors que le monde fait face à des difficultés financières et économiques, la fidélité et l'honnêteté semblent avoir été remplacées par la convoitise et la corruption. Une visite dans un lycée vous exposera souvent à un langage grossier et à des tenues vestimentaires impudiques. Certains athlètes font preuve de peu d'esprit sportif et rarement d'humilité, à moins d'être dénoncés publiquement pour tricherie ou délit. Une grande partie de notre population ne se sent que peu responsable de son bien-être matériel. Certaines personnes en difficulté financière reprochent aux banquiers et aux organismes de prêt de faire des crédits pour satisfaire des désirs insatiables et non des besoins abordables. Parfois, notre générosité pour des bonnes causes disparaît devant notre appétit d'acquérir plus que ce dont nous avons besoin. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas obligés de faire partie du manque de vertu qui infiltre et contamine la société. Si nous suivons le monde en abandonnant les vertus centrées sur le Christ, les conséquences peuvent être désastreuses. La foi et la fidélité personnelle, qui ont des conséquences éternelles, diminueront. La spiritualité et la solidarité familiale en feront les frais. La religion aura moins d'influence sur la société et l'état de droit sera mis à mal, peut-être même abandonné. Un terrain fertile pour toutes les plaies de l'homme naturel aura été préparé pour les plus grandes délices de Satan. Nous devons être à la hauteur et rester fermes à perpétuer les vertus chrétiennes, même les vertuités au quotidien. L'enseignement des vertus commence au foyer par des parents attentionnés et qui montrent l'exemple. Le bon exemple des parents motive. Un exemple médiocre autorise le dédain et même l'encourage. Un exemple hypocrite enlève toute crédibilité. Megan, 8 ans, aime jouer du piano. Récemment, son professeur de piano a offert de lui donner un beignet comme récompense si elle s'exerce chaque jour. Il lui a dit qu'elle pianoterait pour des beignets et qu'il lui téléphonerait dans la semaine. Si elle s'était exercée ce jour-là, elle aurait la récompense. Quand il a téléphoné, elle n'était pas là et n'a pas pu lui faire son rapport. Pendant sa leçon de piano hebdomadaire, le professeur lui a demandé si elle s'était exercée, ce à quoi Megan a répondu qu'elle pensait l'avoir fait, et elle a pris la récompense. Quand sa mère a remarqué le beignet, elle a questionné Megan et lui a fait comprendre qu'elle devait être honnête. Avec les encouragements de sa mère, Megan a appelé son professeur pour lui présenter ses excuses. Au cours de la conversation entre le professeur et l'élève, il est apparu que Megan avait terminé son devoir de théorie de la musique et qu'elle avait donc mérité la récompense. Grâce à des parents impliqués, des leçons importantes peuvent être acquises pour longtemps. Ben, notre petit-fils de 15 ans, est un grand fan de ski, ayant terminé quelques courses avec de très bons résultats. Avant l'une de ses compétitions en Idaho, ses parents lui ont rappelé que sa participation éventuelle dépendrait de ses notes à l'école. Un appartement avait été réservé dans la Sun Valley. Ses grands-parents avaient prévu d'y assister. Et Ben essayait fébrilement d'atteindre les buts scolaires élevés que lui et ses parents espéraient. Cependant, finalement, il a manqué son but de peu. Il a raté la rencontre de ski et a perdu des points pour se qualifier pour les Jeux Olympiques juniors. Mais il a appris une leçon précieuse et comprend l'importance d'assumer ses responsabilités. En restant ferme, les parents souffrent et se tourmentent souvent plus que les enfants qu'ils s'efforcent d'éduquer. James E. Faust a enseigné que l'intégrité est mère de nombreuses vertus. Il a fait remarquer que l'intégrité peut être définie comme une ferme adhésion à un code de valeurs morales. Il a aussi suggéré que l'intégrité est la lumière qui témoigne d'une conscience disciplinée, qu'elle montre la force de la divinité qui est en nous. Quand on manque d'intégrité, il est difficile de faire preuve d'autres vertus. Sans intégrité, on oublie souvent l'honnêteté. En absence d'intégrité, la civilité diminue. Si l'on manque d'intégrité, il est difficile de conserver la spiritualité. Au temps de l'Ancien Testament, Moïse a donné ce conseil aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon ce qui est sorti de sa bouche. Il y a quelques années, le président Monson nous a rappelé que la plupart des gens ne commettront pas d'actes désespérés s'ils ont appris que la dignité, l'honnêteté et l'intégrité sont plus importants que la vengeance ou la rage. S'ils comprennent que le respect et la gentillesse donnent en fin de compte plus de chances de réussir. Vous avez peut-être entendu parler du bataillon perdu de la Première Guerre mondiale, des 10 tribus perdues d'Israël et des garçons perdus de la pièce de J.M. Barrie, Peter Pan. Vous connaissez peut-être aussi l'album de Michael McLean, Chants oubliés de Noël. Les vertus personnelles, surtout celles en IT, ne doivent jamais être oubliées ou délaissées. Si jamais elles sont oubliées ou délaissées, elles deviendront alors inévitablement les vertus perdues. Si elles sont perdues, les familles seront considérablement affaiblies. La foi personnelle au Seigneur Jésus-Christ chancellera et d'importantes relations éternelles pourraient ne pas se réaliser. Une pratique répandue des vertus peut réduire la mainmise de Satan sur la société et contrecarrer ses plans insidieux de rendre captifs le cœur, les pensées et l'esprit de l'homme mortel. Le temps est venu pour nous de sauvegarder ce qui est vertueux, aimable, ce qui mérite l'approbation ou qui est digne de louange. Si nous permettons à la vertu d'orner sans cesse nos pensées et faisons preuve de vertu, nos sociétés et nos institutions s'amélioreront. Nos enfants et nos familles se renforceront. Et la foi et l'intégrité béniront des vies. Je témoigne et je déclare que notre Père Céleste attend de ses enfants qu'ils fassent preuve d'intégrité, de civilité, de fidélité, de charité, de générosité, de moralité et de toutes les vertus IT. Puissions-nous avoir l'humilité de saisir l'occasion d'assumer notre responsabilité de faire preuve de notre capacité d'agir ainsi. C'est là ma prière au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Le chœur et l'assemblée chanteront maintenant « Quel fondement ferme ?» Après quoi, Anne M. Dib, deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles, s'adressera à nous. Elle sera suivie par Russell M. Nelson du Collège des Douze Apôtres. Le chœur chantera ensuite ces mots d'amour.
This is the 179th semi-annual general.
Vous assistez à la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Thank you. number of years ago,
il y a plusieurs années, un article de quelques lignes dans le journal a retenu mon attention et je m'en souviens depuis. Quatre personnes sont mortes et sept ouvriers ont été sauvés après s'être cramponnés pendant plus d'une heure à la face inférieure d'un pont de 38 mètres de haut à St. Catharines, au Canada. Lorsque l'échafaudage sur lequel ils travaillaient s'est écroulé. J'ai été fasciné par cette histoire courte et je le suis toujours. Peu après l'avoir lue, j'ai appelé une amie de la famille qui vivait à St. Catharines. Elle m'a expliqué que les ouvriers peignaient le pont Garden City Skyway depuis environ un an et n'avaient plus que deux semaines pour terminer lorsque l'accident s'est produit. Après l'accident, on a demandé aux responsables pourquoi ces hommes n'avaient pas d'équipement de sécurité. La réponse était simple. Ils avaient l'équipement, ils avaient simplement choisi de ne pas le porter. Lorsque l'échafaudage s'est effondré, les survivants se sont accrochés au rebord d'une poutre métallique de 2 cm, les pieds posés sur un rebord métallique de 20 cm pendant plus d'une heure, jusqu'à ce que les équipes de secours puissent les atteindre. L'un des survivants a raconté qu'agrippé au pont, il avait beaucoup pensé à sa famille. Il a dit « Je remercie simplement le Seigneur d'être ici aujourd'hui. Ça faisait très peur, je vous assure. » Et il y a plusieurs leçons à apprendre et comparaisons à faire à partir de cet incident. La plupart d'entre nous n'auront jamais à faire face personnellement à une situation aussi dramatique de vie ou de mort. Mais beaucoup d'entre nous ont l'impression de traverser une période terrifiante de leur vie. Nous risquons de connaître la solitude, des relations tendues, des tentations, la trahison, des limitations physiques ou la perte d'un emploi bien nécessaire. Nous pouvons être aux prises avec le découragement parce que nos espoirs et nos rêves justes ne se réalisent pas au moment où nous le voudrions. Nous pouvons être amenés à remettre en question nos capacités et avoir peur d'échouer, même dans nos appels dans l'Église et dans notre famille. Les difficultés et les dangers qui font partie de la vie aujourd'hui, y compris la tolérance de la société à l'égard du péché, ont été prophétisés par les prophètes anciens et actuels. Ils sont tout aussi précaires et réels que la menace d'une mort certaine en tombant d'un pont de 38 mètres de haut. Ma vie n'est pas parfaite. Je rencontre le même genre de difficultés. Il en est de même pour tous. Je suis d'accord avec les paroles de cet ouvrier secouru à propos de son expérience dangereuse de s'agripper à ce rebord métallique. Ça fait très peur, je vous assure. Il est important de remarquer cependant que dans les Écritures, il y a très peu d'histoires de gens qui ont vécu dans le bonheur et la félicité sans aucune opposition. Nous apprenons et progressons en surmontant les difficultés avec foi, persévérance et droiture. J'ai été fortifié par la confiance infinie du président Monson en notre Père Céleste et en nous. Il a dit, « Souvenez-vous que vous avez droit aux bénédictions de notre Père Céleste dans cette œuvre. Il ne vous a pas appelé au poste privilégié pour que vous marchiez seul, sans direction, vous fiant à la chance. Au contraire, il connaît vos aptitudes, il se rend compte de votre dévouement et il transformera vos prétendues inaptitudes en points forts, bien réels. Notre Père Céleste ne nous a pas laissés seuls dans notre jour d'épreuve. Il nous a donné tout l'équipement de sécurité dont nous avons besoin pour réussir à retourner auprès de lui. Il nous a donné la prière personnelle, les Écritures, les prophètes actuels et le Saint-Esprit pour nous guider. Parfois, cet équipement peut nous sembler pesant, gênant et horriblement démodé. Pour bien l'utiliser, il nous faut de la diligence, de l'obéissance et de la persévérance. Mais pour ma part, j'ai choisi de l'utiliser. Nous devons tous choisir de l'utiliser. Dans les Écritures, nous découvrons un autre élément clé de l'équipement de sécurité, une barre de fer. Il est demandé aux disciples de notre Sauveur, Jésus-Christ, de se tenir à cette barre pour trouver leur chemin jusqu'à la vie éternelle. Je parle de la vision de Léhi et de l'arbre de vie qui se trouve dans le livre de Mormon. Par la révélation personnelle divine, le prophète du livre de Mormon, Léhi, et son fils, Néphi, ont eu la vision de notre état probatoire ici-bas et des dangers qui l'accompagnent. Léhi a dit, « Et il arriva qu'il s'éleva un brouillard de ténèbres. Oui, un brouillard de ténèbres extrêmement grand, au point que ceux qui s'étaient engagés dans le sentier perdirent leur chemin, de sorte qu'ils s'éloignèrent et se perdirent. Il vit aussi d'autres multitudes marcher résolument. Et elles vinrent se saisir de l'extrémité de la barre de fer, et elles allèrent résolument de l'avant, se tenant continuellement avec fermeté à cette barre de fer jusqu'à s'avancer et se laisser choir et manger du fruit de l'arbre, c'est-à-dire l'arbre de vie. » La vision de Léhi nous apprend que nous devons nous saisir de ce garde-fou, cette barre de fer, qui se trouve le long de notre sentier étroit et resserré personnel, et la tenir fermement jusqu'à ce que nous atteignions notre but ultime, qui est la vie éternelle avec notre Père Céleste. Néphi a prophétisé que les gens qui tiendraient fermement la barre de fer ne périraient jamais. Et les tentations et les trèfles enflammés de l'adversaire ne pourraient pas non plus avoir le dessus sur eux, au point de les aveugler pour les entraîner vers la destruction. Je vous invite à relire les récits complets de cette vision inspirée. Étudiez-les, méditez à leur sujet et appliquez-les à votre vie quotidienne. En langage moderne, nous dirions qu'il nous est demandé de nous accrocher. Nous devons nous tenir fermement à la barre de fer et ne jamais la lâcher. Il n'est pas toujours facile de se tenir à la barre de fer. Nous pouvons la lâcher à cause de l'influence du groupe ou par orgueil, pensant que nous pouvons retrouver notre chemin plus tard. Si nous le faisons, nous laissons derrière nous notre équipement de sécurité. Dans la vision de Léhi, nous voyons beaucoup de gens qui lâchent la barre de fer, il a dit, et beaucoup disparurent à ses yeux, errant sur des routes étranges. Dans les moments difficiles de la vie, nous pouvons nous retrouver aussi errant sur des routes étranges. Je vous assure qu'il nous est toujours possible de retrouver notre chemin. Par le repentir rendu possible par le sacrifice expiatoire de notre Sauveur, Jésus-Christ, nous pouvons nous réengager à saisir fermement la barre de fer et à ressentir à nouveau les conseils aimants de notre Père Céleste qui nous guide. Le Sauveur nous a lancé à tous cette invitation permanente. Repentez-vous, tenez bon et ne lâchez pas. Tout comme Néphi, je vous exhorte de toute l'énergie de mon âme à faire attention à la parole de Dieu et à vous souvenir de toujours garder ses commandements en tout. Utilisez l'équipement de sécurité qu'il vous a fourni. Tenez fermement et croyez que notre Père Céleste vous bénira pour votre diligence. Je sais que l'Évangile rétabli est vrai. Et je sais que nous sommes dirigés par un prophète de Dieu, Thomas S. Monson. J'ai le grand honneur et la bénédiction d'être sa fille. j'aime mes parents profondément. Un soir, j'étais un peu découragée et j'ai dit, « Oh papa, les bénédictions que nous avons en tant que membres de l'Église et les bénédictions promises au temple sont si bonnes. Il nous suffit de tendre la main et de choisir de les accepter. » Il m'a répondu sans hésitation. « Anne, elles sont tout. Je prie sincèrement pour que nous puissions nous tenir aux vérités éternelles de l'Évangile de Jésus-Christ, car elles sont littéralement tout. Au nom de Jésus-Christ, Amen. »
Mes chers frères et sœurs, je suis très reconnaissant à chacun de vous. Je suis également reconnaissant pour le miracle de la communication moderne qui permet que cette conférence parvienne à des millions de personnes de par le monde. La technologie d'aujourd'hui nous permet aussi d'utiliser les téléphones sans fil pour échanger rapidement des renseignements. Récemment, j'étais en déplacement avec Wendy sur un autre continent, parce que nous avons appris la naissance d'un bébé dans notre famille. Nous avons reçu cette bonne nouvelle quelques minutes après l'événement, à l'autre bout du monde. La possibilité d'avoir directement accès aux nouvelles des cieux, sans matériel informatique, logiciel, ni frais d'abonnement mensuel, est encore plus stupéfiante que la technologie moderne. C'est un des cadeaux les plus merveilleux que le Seigneur ait offert aux mortels. Il a fait cette invitation généreuse. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Cette offre éternelle de révélation personnelle est faite à tous ses enfants. Cela semble presque trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. J'ai reçu cette aide divine et y répondu. Et j'ai appris que je dois toujours être prêt à la recevoir. Il y a des années, pendant que j'étais plongé dans la préparation de discours pour la conférence générale, j'étais tiré d'un profond sommeil par une idée qui m'a fait une forte impression. J'ai immédiatement attrapé un crayon et du papier près de mon lit et j'ai écrit aussi vite que je le pouvais. Je me suis rendormi, sachant que j'avais noté cette forte impression. Le lendemain matin, j'ai regardé le morceau de papier et découvert, consterné, que mon écriture était tout à fait illisible. Je continue à avoir un crayon et les papiers à mon chevet, mais j'écris maintenant plus lisiblement. Pour avoir accès à la révélation des cieux, il faut tout d'abord une foi ferme et un profond désir. Il faut demander d'un cœur sincère, avec une intention réelle, en ayant foi en Jésus-Christ. Une intention réelle veut dire qu'on a réellement l'intention de suivre les directives divines qui sont données. La deuxième exigence est d'étudier le sujet diligemment. Ce concept était enseigné aux dirigeants de cette Église rétablie lorsqu'ils commençaient à apprendre comment obtenir la révélation personnelle. Le Seigneur leur a dit, « Je te dis que tu dois l'étudier dans ton esprit. Alors, tu vas me demander si c'est juste. Et si c'est juste, je ferai en sorte que ton sein brûle au-dedans de toi. C'est ainsi que tu sentiras que c'est juste. » Une façon de se préparer est de connaître les enseignements du Seigneur qui se rapportent au sujet et d'y obéir. Certaines de ces vérités éternelles sont applicables à tous. C'est le cas, par exemple, des commandements de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas porter de faux témoignages. D'autres enseignements ou commandements sont également pour tous, comme ceux sur le sabbat, la Sainte-Cène, le baptême et la confirmation. Certaines révélations ont été données pour des circonstances uniques, comme la construction de l'arche par Noé, ou la nécessité où se trouvaient des prophètes que Moïse, Léhi et Brigham de conduire leurs disciples dans des voyages difficiles. Le modèle établi par Dieu depuis longtemps pour instruire ses enfants par l'intermédiaire de prophètes nous assure qu'il bénira chaque prophète, ainsi que ceux qui obéissent à leurs conseils. Le désir de suivre le prophète nécessite beaucoup d'efforts, parce que l'homme naturel en sait très peu sur Dieu, et encore moins sur son prophète. Paul a écrit, « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Le changement de l'homme naturel au disciple dévoué est énorme. Un autre prophète a enseigné, « L'homme naturel est ennemi de Dieu. » Elle est depuis la chute d'Adam, et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit Saint. Elle se dépouille de l'homme naturel. Elle devient un saint, par l'expiation du Christ, le Seigneur. Elle devient semblable à un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger, tout comme un enfant se soumet à son père. Récemment, j'ai vu un changement de cet ordre chez un homme que j'avais rencontré il y a environ 10 ans. Il était venu à une conférence de pieux où son fils était soutenu comme membre de la nouvelle présence de pieux. Ce père n'était pas membre de l'Église. Après la mise à part de son fils, j'ai passé mon bras autour des épaules de ce père et l'ai félicité d'avoir un fils si merveilleux. Puis je lui ai déclaré audacieusement, « Le jour viendra. Vous voudrez que ce fils soit scellé à vous et à votre femme dans un saint temple. Et ce jour-là, je serai honoré d'accomplir ce scellement pour vous. » Au cours des 10 ans qui ont suivi, je n'ai pas revu cet homme. Il y a 6 semaines, il est venu à mon bureau avec sa femme. Il m'a salué chaleureusement et m'a raconté combien il avait été surpris par mon invitation. Il n'en avait pas fait grand-chose jusqu'à ce que, plus tard, son ouïe commence à diminuer. Puis il s'est rendu compte que son corps se modifiait et que son temps sur Terre était effectivement limité. Par la suite, il est devenu sourd. En même temps, il s'est converti et s'est joint à l'Église. Pendant notre entrevue, il a résumé sa transformation totale. J'ai dû devenir sourd avant de pouvoir tenir compte de la grande importance de votre message. Alors je me suis rendu compte combien je voulais que mes êtres chers me soient scellés. Je suis maintenant digne et prêt. Voulez-vous bien accomplir ce scellement? C'est ce que j'ai fait, avec une profonde gratitude envers Dieu. Après ta conversion, un ravinement spirituel encore plus important peut se produire. La révélation personnelle peut être affinée pour devenir discernement spirituel. Discerner veut dire filtrer, séparer ou distinguer. Le don du discernement spirituel est un don divin. Il permet aux membres de l'Église de voir les choses qui ne sont pas visibles et de ressentir les choses qui ne sont pas tangibles. Les évêques ont droit à ce don pour accomplir la tâche de chercher les pauvres et de prendre soin des nécessiteux. Avec ce don, les sœurs peuvent voir les tendances du monde détecter celles qui, quelle que soit leur popularité, sont superficielles et même dangereuses. Les membres peuvent discerner entre les projets qui sont tape à l'œil et éphémères et les raffinements qui sont édifiants et durables. Le discernement était implicite dans les instructions importantes que John Taylor a données il y a longtemps. Il a enseigné au président de Pieux, aux évêques et à d'autres personnes, je cite, « Ceux qui détiennent ces postes sont en droit d'obtenir la parole de Dieu en ce qui concerne le devoir de leur présidence, afin de mieux réaliser ses desseins sacrés. » Aucun appel ni poste dans la prêtrise n'est destiné au bénéfice, à la rémunération ou à la renommée de ceux qui le détiennent. Mais il est extrêmement donné pour accomplir les desseins de notre Père Céleste et pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Nous cherchons à comprendre la volonté de Dieu, puis à l'accomplir. Et à nous assurer qu'elle est accomplie par les gens dont nous sommes responsables. Fin de citation. Pour que chacun d'entre vous reçoive les révélations propres à ses besoins et ses responsabilités, il existe certaines directives. Le Seigneur vous demande de faire preuve de foi, d'espérance, de charité et d'amour, et d'avoir l'œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu. Puis avec votre foi, votre vertu, votre connaissance, votre tempérance, votre patience, votre bonté fraternelle, votre piété, votre charité, votre humilité et votre diligence fermement ancrée, vous pouvez demander et vous recevrez. Vous pouvez frapper et l'on vous offrira. Vous ouvrira. La révélation de Dieu est toujours compatible avec sa loi éternelle. Elle n'est jamais en contradiction avec sa doctrine. Elle est facilitée par la révérence qui sied à l'écart de la divinité. Le Maître nous a donné cet enseignement. Moi, le Seigneur, je suis miséricordieux et bienveillant envers ceux qui me craignent et me réjouis d'honorer ceux qui me servent en justice et en vérité jusqu'à la fin. Grande sera leur récompense et éternelle leur gloire. C'est à eux que je révélerai tous les mystères et le bon plaisir de ma volonté concernant toutes les choses qui ont trait à mon royaume. La révélation n'arrive pas nécessairement entièrement d'un seul coup. Elle peut être progressive. Car ainsi dit le Seigneur, je donnerai aux enfants des hommes ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. Et bénis sont ceux qui écoutent mes préceptes et prêtent l'oreille à ma recommandation, car ils apprendront la sagesse. Car à celui qui reçoit, je donnerai davantage. La patience, la persévérance font partie de notre progression éternelle. Les prophètes ont décrit ce qu'ils ont ressenti en recevant la révélation. Joseph Smith et Oliver Cowdery ont raconté « Le voile fut enlevé de notre esprit et les yeux de notre entendement furent ouverts. » Joseph Smith a écrit « Tandis que je méditais sur ces choses qui étaient écrites, les yeux de mon intelligence s'ouvrirent. L'Esprit du Seigneur reposa sur moi. » Tout saint des derniers jours peut mériter la révélation personnelle. L'invitation de demander, chercher et frapper pour obtenir des instructions divines existe parce que Dieu vit et que Jésus est le Christ vivant. Elle existe par cette Église et son Église vivante. Et nous sommes bénis aujourd'hui parce que Thomas S. Monson est son prophète actuel aujourd'hui. Ma prière et que nous puissions écouter ces conseils prophétiques et y obéir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Beautiful.
Magnifique. Le chant et cette vue aussi. J'aurai maintenant le plaisir de vous adresser la parole après mes propos. Le chœur conclura ce service en chantant « Ai-je fait du bien ?» Enrique R. Farabella, des 70, fera ensuite la prière de clôture. Mes très chers frères et sœurs, je vous salue en cette belle matinée, le cœur rempli d'amour pour l'Évangile de Jésus-Christ et pour chacun de vous. Je suis reconnaissant de la bénédiction d'être devant vous et je prie pour pouvoir vous communiquer efficacement ce que je me suis senti poussé à dire. Il y a quelques années, j'ai lu un article du docteur McConnell. Il a grandi dans les collines du sud-ouest de la Virginie, aux États-Unis. Il était l'un des 7 enfants d'un pasteur méthodiste et d'une mère au foyer. Ils étaient très pauvres. Il raconte que durant son enfance, chaque jour, lorsque la famille s'asseyait autour de la table pour le dîner, son père demandait à chacun à tour de rôle, « Qu'as-tu fait pour quelqu'un aujourd'hui ?» Les enfants étaient déterminés à faire une bonne action chaque jour pour pouvoir dire à leur père qu'ils avaient aidé quelqu'un. Le docteur McConnell appelle cet exercice le legs le plus précieux de son père, car cette attente et ces paroles les ont inspirés, ses frères et sœurs et lui, à aider leurs prochains tout au long de leur vie. Quand ils ont grandi et mûri, leur motivation de rendre service s'est changée en un désir intérieur d'aider autrui. En plus d'une carrière médicale remarquable, il a dirigé la mise au point du test tuberculinique, il a participé au développement du vaccin contre la polio, il a supervisé la découverte du Tylenol et il a participé à la mise au point de l'imagerie par résonance magnétique, ou IRM. En plus de cela, le docteur McConnell a créé une association qu'il appelle Bénévoles en médecine, qui donne au personnel médical en retraite la possibilité de travailler dans des cliniques gratuites pour les travailleurs non assurés. Le docteur McConnell dit que son temps de loisir, depuis qu'il est à la retraite, s'est envolé et qu'il travaille 60 heures par semaine sans être payé, mais qu'il a davantage d'énergie et plus de satisfaction qu'il en avait auparavant. Il a dit, l'un des paradoxes, c'est que bénévole en médecine m'a bénéficié plus à moi qu'à mes patients. Fin de citation. Il y a maintenant plus de 50 cliniques de ce type aux États-Unis. Nous ne pouvons bien sûr pas tous être docteur McConnell, fondant des cliniques pour aider les pauvres, mais les besoins des autres sont toujours là, et chacun de nous peut faire quelque chose pour aider quelqu'un. L'apôtre Paul a lancé cette exhortation. Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Rappelez-vous les paroles du roi Benjamin dans le livre de Mormon. Lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu. Le Sauveur a enseigné à ses disciples, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Je crois que le Sauveur nous dit qu'à moins de nous perdre dans le service, notre vie ne sert pas à grand-chose. Les gens qui ne vivent que pour eux-mêmes finissent par se dessécher et, au sens figuré, perdent leur vie. Tandis que ceux qui se perdent au service d'autrui progressent et s'épanouissent et, en fait, sauvent leur vie. Lors de la conférence générale d'octobre 1963, celle au cours de laquelle j'ai été soutenu comme membre du Collège des 12 apôtres, le président McKay a fait la déclaration suivante. Le plus grand bonheur de l'homme s'obtient en se perdant pour le bien d'autrui. Fin de citation. Souvent, nous vivons côte à côte, mais nous ne communiquons pas de cœur à cœur. Il y a des gens qui se trouvent dans notre sphère d'influence et qui s'écrient en levant les bras, « N'y a-t-il point de baume en Galade ?» Je crois qu'il est de l'intention de chaque membre de l'Église de servir et d'aider les gens dans le besoin. Au baptême, nous faisons alliance de porter les fardeaux les uns des autres afin qu'ils soient légers. Combien de fois avez-vous été touché en voyant les besoins de quelqu'un? Combien de fois avez-vous eu l'intention d'être celui qui aide? Et pourtant, combien de fois la vie quotidienne s'est-elle interposée et avez-vous laissé quelqu'un d'autre aider en vous disant « Oh, quelqu'un va certainement s'en occuper ». Nous sommes beaucoup pris par nos occupations. Cependant, si nous prenions un peu de recul pour examiner ce que nous faisons, nous verrions peut-être que nous afférons à des choses de peu d'importance. En d'autres termes, trop souvent, nous passons la plus grande partie de notre temps à des choses qui n'ont pas réellement beaucoup d'importance, négligeant des causes plus importantes. J'ai entendu il y a longtemps un poème que je n'ai pas oublié et que j'ai essayé d'utiliser pour guider ma vie. C'est l'un de mes préférés. La nuit, j'ai pleuré d'avoir été si borné, de n'avoir pas vu le besoin d'autrui, mais je n'ai encore jamais éprouvé le moindre regret d'avoir été un peu trop gentil. Mes frères et sœurs, nous sommes entourés de gens qui ont besoin de notre attention, de nos encouragements, de notre soutien, de notre réconfort et de notre gentillesse, que ce soit des membres de notre famille, des amis, des connaissances ou des inconnus. Nous sommes les mains du Seigneur, ici sur terre, avec la mission de servir et d'aider ses enfants. Il dépend de chacun de nous. Vous lamentez peut-être, j'arrive à peine à faire tout ce que j'ai besoin de faire chaque jour. Comment puis-je rendre service à d'autres? Qu'est-ce qu'il m'est possible de faire? Il y a un peu plus d'un an, juste avant mon anniversaire, j'ai été interviewé par un journaliste du Church News. À la fin de l'interview, il m'a demandé quel était le cadeau idéal que les membres de l'Église du monde entier pourraient m'offrir. J'ai répondu, trouver quelqu'un qui a des difficultés, ou est malade, ou seul, et faire quelque chose pour cette personne. J'ai été bouleversé de recevoir cette année pour mon anniversaire des centaines de cartes et de lettres de membres de l'Église du monde entier me disant comment ils avaient réalisé ce vœu d'anniversaire. Les actes de service vont de l'assemblage de trousses humanitaires au jardinage. Des dizaines et des dizaines de primaires ont demandé aux enfants de rendre service. Puis ces services ont été illustrés et m'ont été envoyés. Je dois dire que les méthodes d'illustration étaient très créatives. Il y a eu de nombreuses pages assemblées en livres de formes, tailles différentes. Certains contenaient des cartes ou des dessins faits et coloriés par les enfants. Une primaire très créative a envoyé un grand bocal contenant des centaines de ce qu'ils appelaient des chaudoudous.
I wouldn't have known what a warm fuzzy was.
Je ne savais pas ce qu'était un chaud-doudou. Chacun représentait un service rendu durant l'année par l'un des enfants de la primaire. J'imagine le bonheur de ces enfants en racontant leur service. Et en mettant un chaud-doudou dans le bocal. Voici quelques-uns des innombrables mots contenus dans les nombreux cadeaux que j'ai reçus. Un petit enfant a écrit « Mon grand-père a eu une attaque et je lui ai tenu la main. » Une fillette de 8 ans. « Ma sœur et moi avons rendu service à maman et à notre famille en rangeant et en nettoyant le placard à jouets. Cela nous a pris quelques heures. » Et nous sommes bien amusés. Le mieux, c'est que maman était surprise et heureuse parce qu'elle ne nous avait même pas demandé de le faire. Une fillette de 11 ans écrit, « Il y avait dans ma paroisse une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. Il y a 3 petites filles. La mère et le père devaient aller quelque part. Alors j'ai proposé de garder les 3 filles. Le père allait me donner un billet de $5. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le prendre. Mon service était de garder les filles gratuitement. Un enfant de la primaire en Mongolie a écrit qu'il avait rapporté de l'eau du puits pour que sa mère n'ait pas à le faire. D'un garçon de 4 ans, écrit sans doute par une instructrice de la primaire, je cite, « Papa est parti pour quelques semaines de formation militaire. Mon travail est de faire à maman des câlins et des baisers. » Je vois bien qu'ils disent aussi pour le père. Écrit par une fille d'aide de 9 ans. J'ai ramassé des fraises pour mon arrière-grand-mère. J'étais contente. Et un autre. J'ai joué avec un enfant qui était tout seul. D'un garçon de 11 ans. Je suis allé chez une dame. Je lui ai posé des questions. Et je lui ai chanté une chanson. J'étais content de lui rendre visite. Elle était heureuse parce qu'elle n'a jamais de visite. Cette lettre en particulier m'a rappelé ce que Richard L. Evans du Collège des 12 a écrit il y a longtemps. Il a dit, « Il n'est pas facile pour ceux qui sont jeunes de comprendre la solitude qui survient dans la vie quand la vie passe d'une période de préparation et d'accomplissement à une certaine incapacité. Être si longtemps le centre d'un foyer, la personne dont on a tant besoin, et puis, presque soudainement, être sur le côté à regarder la vie passer, c'est cela, vivre dans la solitude. Il faut vivre longtemps pour apprendre comment une pièce remplie uniquement de meubles peut être une pièce vide. Il faut quelqu'un autre que la personne payée, l'établissement de soins ou le professionnel au travail pour réchauffer les souvenirs du passé et les garder bien vivants dans le présent. Nous ne pouvons pas leur ramener les heures matinales de la jeunesse, mais nous pouvons les aider à vivre à la douce lueur d'un coucher de soleil embelli par notre attention et notre amour sincère. » Fin de citation. J'ai aussi reçu des cartes et des lettres d'adolescents, de classe, des jeunes gens et des jeunes filles qui ont fait des couvertures pour des hôpitaux, travaillé dans des banques alimentaires, été baptisés pour les morts et rendu de nombreux autres services. Des sociétés de secours où l'on peut toujours trouver de l'aide, ont rendu davantage de services qu'elles ne le font normalement. Des groupes de la prêtrise ont fait de même. Mes frères et sœurs, j'ai rarement été aussi touché et reconnaissant que lorsque Sir Manson et moi avons passé littéralement des heures à lire ces cadeaux. Je suis encore ému en parlant de cela. Et en pensant aux gens qui en ont été bénis, à la fois ceux qui ont donné et ceux qui ont reçu. Les paroles du 25e chapitre de Matthieu me viennent à l'esprit. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Mes frères et sœurs, puissions-nous nous poser la question qui accueillait le docteur McConnell et ses frères et sœurs chaque soir à l'heure du dîner? Qu'ai-je fait aujourd'hui pour quelqu'un? Puissent les paroles d'un cantique bien connu pénétrer jusqu'au tréfonds de notre âme et trouver place dans notre cœur. Je ne le chanterai pas. Ai-je fait du bien dans ce monde aujourd'hui? Ai-je bien assisté mon prochain? Ai-je rendu joyeux un ami malheureux? Sinon, j'ai vécu en vain. Un fardeau ai-je allégé aujourd'hui par mon désir de partager? Et quand dans la détresse s'est trouvé autrui, et j'étais là, prêt à l'aider. Ce service auquel nous avons tous été appelés, c'est le service du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a tous enrôlés dans sa cause et il nous invite à nous approcher de lui. Il nous parle à vous et à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Si nous écoutons véritablement, nous entendrons peut-être cette voix au lointain nous dire, comme cela a été dit à quelqu'un d'autre, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Puissions-nous tous nous qualifier pour cette bénédiction du Seigneur. C'est là ma prière que j'offre en son nom, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Thank you. Our beloved Heavenly Father,
notre Père Céleste bien-aimé, nous inclinons la tête devant toi ce matin pour te remercier de la possibilité que nous avons eue d'entendre ta voix par l'intermédiaire de dirigeants de l'Église. Nous sommes reconnaissants de l'esprit que nous avons senti, des témoignages que nous avons reçus dans notre cœur et de désir que nous avons de respecter tes commandements. Nous sommes reconnaissants d'avoir un prophète, le président Monson et ses conseillers et les membres des 12. Veuille leur accorder la santé et ton esprit pour qu'ils dirigent cette grande église. À présent, Père, te demandons ta bénédiction afin que nous puissions suivre les conseils que nous avons reçus lors de cette conférence. Donne-nous un cœur humble afin que nous entendions de nouveau ta voix en relisant ces messages et les appliquant dans notre vie. Protège-nous sur le chemin du retour. Nous demandons de nous donner les bénédictions dont nous avons besoin de notre famille, afin que nous vivions en harmonie et dans l'amour les uns pour les autres. Bénis les saints, afin qu'ils aient ce dont ils ont besoin. Ils veulent protéger leurs enfants. Nous t'aimons et t'adressons cette prière au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Vous venez d'assister à la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du tabernacle mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.